Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 10h05, bienvenue sur RMC si vous nous rejoignez. Bon réveil aussi en ce dimanche, ce premier dimanche d'août, dimanche de vacances pour la plupart d'entre vous. Vous nous écoutez peut-être d'ailleurs dans la voiture. Soyez prudents sur la route, on vous accompagne jusqu'à midi. Jérôme Pinault, Fred Weiss et Pascal Duprat sont avec moi ce matin. On a passé une première heure très intense. Ça va messieurs, toujours en forme ?
Oui,
super fort.
Parfait.
Autant que faire se peut.
Autant que faire se peut. Les mots ont un sens, effectivement, Fred Weiss. Le ring DGG, dans quelques instants, on va parler des championnats d'Europe de natation et plus largement d'ailleurs de Léon Marchand. Un sport sous la lumière d'une superstar, est-ce toujours bénéfique ? La punchline DGG à suivre aussi autour de la nouvelle saison de l'OM et de son coach Bruno Genesio. Sans oublier le vestiaire, nos GG sont-elles attachées aux trophées remportés tout au long de leur carrière ? Ils nous raconteront des petites anecdotes sur leur attachement ou leur romantisme aussi dans le sport attaché aux objets. On vous rappelle aussi que tout le week-end, dans les jeux du sport, dans les grandes gueules, on vous fait gagner à l'occasion du Tour de France féminin un abonnement d'un an à Basic Fit pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement, eh bien vous envoyez sport, S-P-O-R-T, au 7-32-16, sport au 7-32-16. En ce moment se déroule, vous le savez, au Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis, les championnats d'Europe de natation avec évidemment une superstar attendue, Léon Marchand.
RMC, le ring des GG.
Bon alors, toi t'es le dauphin, comment il s'appelle ?
Léon Marchand !
Regarde Obélix, le dauphin, on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Vite, fais-moi le.
Léon Marchand !
Ça va
déclencher le titre olympique !
Non !
Champion olympique !
Personne n'avait fait ça, ouais, c'est clair. Je sais pas comment j'ai fait.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Je n'en sais rien, je ne parle pas dauphin.
Il va le faire ! Mais oui !
Il va !
Mais oui ! Léon Marchand ! Champion olympique !
Il est dauphin ! Ouais, faut voir comment il se la joue, celui-là.
Regardez-moi, comme je suis beau, comme je fais de jolis bons.
Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé, mais j'ai l'impression que tout le monde me voit différemment. Donc, tu sais pas trop comment gérer tout ça.
Léon Vincent va être champion olympique. Léon Vincent, champion olympique. L'histoire s'écrit ici ce soir.
Les dauphins sont très intelligents. Mon dentiste lui-même me l'a dit.
La victoire, elle est dans la poche de Léon Vincent, de ce phénomène de la natation mondiale, de la natation française. 4, et oui, 4. Le signe de la main, 4 victoires, 4 médailles d'or.
Hey, on va pas voler un dauphin là.
Non, on va lui faire prendre l'air.
Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien.
C'était toi Fred, le dauphin hier, que s'est-il passé ?
Ben oui, ben comme quoi tout change.
Alors on ne va pas tout de suite voir le quadruple champion olympique de Paris puisque la compétition en bassin ne démarre que le 10 août prochain, mais le français est déjà dans la capitale et ça suffit à créer l'émulation. Clément Brossard est avec nous ce matin. Salut Clément.
Salut Flora, salut tout le monde.
Léon Marchand qui était présent notamment hier à l'entraînement à Vichy pour un point presse aussi. Et quand il est là, bah, il ne passe pas inaperçu.
Un entraînement public comme cela avait été le cas à Vichy avant les Jeux Olympiques il y a 2 ans. Vous l'entendez derrière moi, c'est quelques applaudissements. C'est Léon lancé aussi. 500 personnes venues pour applaudir, admirer, féliciter l'équipe de France avec un attrait particulier pour Léon Marchand. Bien sûr, c'était le cas pour Léa, 13 ans, jeune nageuse de la région.
C'est dur à expliquer, mais c'est un peu comme si c'était un roi. C'est le roi de ma passion, quoi.
Le roi Léon Marchand. L'entraînement avait lieu au centre aquatique, fraîchement rebaptisé, tiens, au nom du nageur préféré des Français, flatté.
Simplement fier, honoré d'avoir mon nom sur ce bassin. C'est un bassin où j'ai des souvenirs vraiment, vraiment cool. Après, c'est parce que c'était bien passé pour moi aussi, peut-être. Il y a eu des grosses équipes qui sont passées ici pour s'entraîner en stage, etc. Donc, c'est une fierté pour moi.
S'en est suivi une séance de dédicace dans la bonne humeur, de quoi se rapprocher un peu de l'événement et de l'ambiance parisienne que Léon Marchand retrouvera après avoir éclaboussé de son talent les Jeux Olympiques de Paris il y a 2 ans. Même si cette fois, ce ne sera non pas à la Paris La Défense Arena, mais au Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis.
Je suis très excité avec l'idée de voir cette piscine, je ne l'ai jamais vue en vrai. Je pense que ça va nous remémorer des bons moments. Le bruit des spectateurs, c'est quelque chose qui était assez fort à Paris. Alors je sais que ce ne sera pas vraiment la même chose. Le chapitre Paris 2024, il est clos. Mais j'espère pouvoir revivre déjà une compétition avec beaucoup d'ambiance, de l'enjeu et des supporters français.
Et Clément, hein, tout le monde, les fans comme les organisateurs de l'événement d'ailleurs, a soufflé un grand coup parce qu'on a bien cru que Léon Marchand ne serait pas là.
Et oui, parce qu'il avait été victime d'une déchirure à l'adducteur au championnat de France, fin juin à Saint-Etienne. C'était sa première vraie blessure à Léon. Et qu'il s'est reblessé 3 semaines plus tard en séance d'entraînement à Marseille. Donc forcément, ça a changé un petit peu ses plans.
J'ai repris la brasse un poil trop vite quand j'étais à Marseille. J'ai forcé un peu trop, donc ça s'est retendu où j'avais mal. Donc maintenant, il faut que je reste un peu plus patient. J'ai toujours pas repris la brasse. Et on est quand même à une semaine de la compète, donc ça va être difficile. J'ai fait forfait sur le 200 mètres brasse. Ce serait trop violent pour l'adducteur. Et le 400 mètres 4 nages est un peu incertain encore. Et comme c'est le premier jour, j'ai pas envie de me refaire mal pour le restant de la semaine.
Alors j'entends déjà Fred d'ici, ouais mais attends, il va être où Léon, on va pas le voir. Alors rassurez-vous, il va rester sur pas mal de courses. Sa blessure à l'adducteur lui a permis notamment de bien travailler le crawl et le papillon. Donc Léon Marchand sera bien aligné sur le 4x200 nage libre le premier jour. Viendront ensuite le 200 mètres papillon, le 200 mètres nage libre et le dernier jour, il devra choisir entre le 200 mètres 4 nage et le 400 mètres nage libre. Ça fait pas mal de courses et évidemment, il va les aborder avec de l'ambition.
Je vais essayer de faire mes meilleurs temps sur les courses sur lesquelles je m'aligne. Je vais essayer de gagner, je vais essayer de vivre des moments agréables et dont je vais me souvenir dans le futur. Et surtout de vivre des émotions avec l'équipe de France.
Des émotions et on sent aussi une forte envie de performer sur une nage en particulier, le papillon. Son coach Bob Bowman, hein, toujours très ambitieux, espère un record du monde. Réponse de Léon Marchand.
Ah ouais, toujours plus. Le papillon, c'est quand même une nage que j'ai toujours aimé. Un record perso déjà, ce serait top.
Ouais, ce serait pas mal. Je vous donne le programme pour Léon Marchand. Il reprendra la brasse demain. Il va passer jeudi une nouvelle IRM qui va lui permettre de décider seulement 24 heures avant finalement le 400 mètres 4 nage, voir si il le prend ce départ ou pas de cette première course. Le DTN Denis Hauguin nous disait hier qu'il allait pouvoir faire les séries, quitte à faire forfait sur le final s'il ne se sent pas ensuite. Mais Léon sait qu'il peut faire un gros temps, qu'il y a aussi le risque de se reblesser et d'empirer même sa blessure à 2 ans des Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Et ça reste la priorité. Donc prudence pour Léon Marchand.
Évidemment. Merci beaucoup Clément pour toutes ces précisions.
Il est fort ce Clément quand même. Il répond à des questions que j'ai pas eu le temps de poser quand même.
Je te connais parfaitement.
Il anticipe.
Je sais que c'est un expert de la natation.
Bah, bien sûr. Et surtout du papillon, apparemment.
Oui, le papillon. Oui.
Voilà.
Natation artistique aussi, ma
surprise. Oui. Effectivement.
J'ai failli le piéger, mais il est très, très bon, Clément. Vraiment très, très bon.
Ça lui arrive de temps en temps, effectivement. Merci, Clément. On te retrouvera évidemment sur RMC pour ces championnats d'Europe de natation que vous pouvez suivre tous les jours. Que serait-il advenu justement de ces championnats d'Europe sans la superstar de la natation française et mondiale, d'ailleurs, qu'est Léon Marchand? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Les GG, en élargissant aussi à d'autres disciplines, un sport sous la lumière d'une superstar, est-ce forcément bénéfique? Fred?
Non.
Pascal?
Forcément oui, au bout du compte.
Jérôme?
Non plus.
On vous a posé aussi la question sur X, vous avez pour le moment répondu oui à 73%. Donc pour le moment, tout le monde est derrière Pascal. Il va falloir essayer.
C'est la première fois que ça lui arrive. Attends. Prenons une petite pause, laissons respirer Pascal, laissons le assumer cette situation.
Malgré mon insuccès, je suis populaire quand même, Fred, détends-toi.
C'est beau, comme quoi on n'aime pas les gens qui gagnent.
Du coup, c'est à vous, Fred et Jérôme, d'essayer de faire changer les gens. C'est indispensable de pour porter un sport, malgré tout, d'avoir une tête d'affiche, Fred, ça c'est sûr.
Non, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est déjà le forcément bénéfique. Bien sûr que c'est
la
bénéfique.
La formule est importante.
La formule est importante, mais évidemment, quand tu as une superstar, ça met en lumière la discipline. Ça met en lumière le fait que cette personne, cette superstar, évolue dans cette discipline. Et donc, bien sûr qu'il y a des bénéfices qui sont indéniables. C'est-à-dire que, en gros, quand on est allé en marchant, on sait qu'on va remplir la piscine parce que tout le monde sera pour Léon Marchand. Mais moi, la difficulté que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est un peu contre-intuitif, mais j'ai quand même l'impression que ça invisibilise les autres.
Bien sûr, exactement.
C'est-à-dire qu'en gros, quand on pense à la natation, on pense à Léon Marchand. C'est à peu près tout. Alors je parle encore une fois des gens dans la rue,
du grand public,
etc. Mais c'est vrai que oui, on parle de natation et ça c'est une très bonne chose. Et la plupart des gens sont ravis de ça. Mais se dire que il n'y a que Léon Marchand qui compte, que quand Léon Marchand ne court pas, ça nous intéresse moins.
S'il n'y avait pas cette star, on parlerait des autres malgré tout.
C'est une bonne question.
C'est pire.
Mais je suis pas
c'est
certain.
C'est un argument ce que tu avances.
Je suis pas certain.
C'est pire s'il n'y avait pas de champion.
Je pense que on nommerait un petit peu plus les autres. Alors oui, il y aurait moins de lumière globale sur la natation, mais peut-être qu'on connaîtrait Maxime Brousset un petit peu plus, parce que c'est quand même un super athlète.
Qui est champion du monde. Hein,
qui est champion du monde, et qui, dans l'ombre de Léon Marchand, est invisible. Mais il y a un contre-exemple. Tu vois, moi
alors, encore, pour lui, quand individuellement, ça doit être dur à vivre.
Mais oui,
là,
c'est ce que je dis.
Certes.
C'est ce que je dis.
Le sport, la natation en général.
Mais c'est pour ça que j'ai dit en deux temps. Et moi, j'ai un contre-exemple. Tu vois, je pense à Wembanyama. Mmh. Wembanyama, quand il jouait à Levallois, là, tout le monde regardait Victor Wembanyama. Mais il faut se rendre compte que Bilal Koulibaly, je pense qu'il a été drafté, connu par le grand public. Il a fait la carrière qu'il a fait, qu'il est en train de faire, en tous les cas. Il est en équipe de France, etc. Parce que il y avait cette capacité de le voir. Donc, il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Je pense que Léon Marchand est une bénédiction pour le sport français. Mais que quand on est à côté de Léon Marchand et qu'on court à côté de lui, ça doit être très dur à vivre.
Je pense surtout, Fred, que ça, c'est sûr. La question, elle est bien posée, sauf qu'on ne parle pas du bon sport. Parce que l'histoire de la natation française, elle est très riche. Et que Léon Marchand, il arrive après toute la grande génération d'avant.
Si tu prends l'exemple de la natation, Laure Manaudou a été aussi cette superstar qui a mis en lumière la natation française.
Ils ont été plusieurs.
Elle était seule très longtemps quand même, Laure Manaudou.
Ensuite, le sport, pour moi, qui illustre le mieux cette nécessité d'avoir de surtout pas dépendre de personnalité, c'est les frères Lebrun, c'est le ping. Parce que si un sport dépend de l'ultra notoriété de ses meilleurs joueurs, ça veut dire qu'il est hyper fragile en fait. Et c'est que le jour où ces joueurs là
l'émergence du ping-pong, c'est parce qu'il y a deux joueurs
les frères Lebrun.
Mais
sauf que Pascal, il pète un plomb, les deux, ils arrêtent, terminé pour le ping, on n'en parle plus. Il est là le problème.
Peut-être que le ping, y compris si ces deux joueurs s'arrêtent, a pris son essor. Parce que ça a suscité des vocations. Je suis certain que dans la fédération de ping-pong, il y a recrudescence des licenciés. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a des stars qui ont été mises en lumière. Après les Jeux Olympiques, je suis certain que les licenciés ont été plus nombreux.
Ça a explosé, ça.
Est-ce que ça va durer ce rebond, Pascal? C'est ça la question. Est-ce que si Lebrun s'arrête demain,
la question n'est pas tant de savoir si ça va durer. Dire que ça existe, le phénomène existe. Parce qu'encore une fois, si Léon Marchand avait sous-performé aux Jeux Olympiques, eh bien le soufflet serait retombé. T'aurais peu de licenciés et l'intimité. C'est peut-être un peu dur ce que je dis par rapport à le côté intime de la natation, parce que c'est quand même un sport installé, mais toujours est-il qu'on en aurait de toutes les façons, de facto, jamais parlé, ou très peu parlé. Moi, je vois simplement une chose, c'est que, il phagocyte certainement toutes les attentions, il phagocyte tout le sponsoring, une bonne partie du sponsoring, mais la Fédération française de natation en bénéficie. Grâce à Léon Marchand,
il est sur toutes les affiches,
elle a certainement capté des sponsors qu'elle ne pensait pas pouvoir capter. Évidemment. Ça suscite des vocations, des licenciés supplémentaires, et même au niveau de l'État, ça oblige nos pouvoirs politiques à être un peu plus attentionnés parce que la natation est mise en lumière. Donc certainement que les infrastructures vont être davantage rafraîchies que si la natation n'avait pas été mise en lumière par sa star.
Si tu es un de ses collègues et que justement tu vas voir les sponsors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Désolé, on a déjà donné pour Léon Marchand.
Je suis absolument d'accord avec toi. Ça profite certainement ou ça nuit davantage à l'avènement de champions comme Maxime Grousset. Mmh. Certainement. Parce qu'il est un peu en dessous, si t'es mieux. Mais ça reste néanmoins.
Parce qu'il gagne
un très grand champion.
Moi, je vais te prendre l'exemple du cyclisme féminin aussi, Pascal.
Mais c'était une question que j'allais prendre. Je suis d'accord avec toi.
Aujourd'hui, évidemment que Pauline porte à elle-même le projet Tour de France. Elle est la meneuse. Mais derrière, il faut absolument que cette notoriété-là, elle permette, et pas qu'au Tour, parce que là, on parle uniquement de la vitrine. C'est derrière qu'il faut bosser. Si cette oseille-là, elle sert à faire une autre équipe et faire passer des gamines à 19 ans pro, parce qu'elles sont les meilleures dans leur région, mais parce qu'il n'y a pas de concurrence, ça met en danger. Pour moi, ça peut être aussi un énorme danger d'avoir une discipline qui ne repose que sur la notoriété d'un ou deux athlètes.
Je vais employer une métaphore. Peut-être que de manière magistrale, Léon Marchand, il a allumé la lumière. Ça scintille de partout. Charge à la Fédération française de natation d'installer l'électricité partout.
Une qui va faire que ça scintille partout.
De faire en sorte que le réseau soit très performant. Ça, c'est à la Fédération.
C'est pour ça que je dis pas forcément, parce qu'il faut surfer sur ça. Il faut s'en servir. En soi, juste le fait qu'il y ait une star qui brille, c'est pas suffisant. Il faut tout un travail derrière, il faut tout un accompagnement. C'est toute une promotion des autres athlètes. Et le Tour de France féminin, pour moi, c'est clairement caractéristique de ça.
C'est une mise, c'est génial. Ça cache, permet, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Oui, derrière. Oui, mais ça permet aussi de créer des vocations parce que on sort dessus, parce que le Tour de France finalement, ça donne des envies à des jeunes coureuses d'aller faire le Tour de France, de faire du cyclisme. Elles sont devenues professionnelles et maintenant enfin elles ont une possibilité de devenir professionnelles et de gagner leur vie en faisant du sport. Donc c'est magnifique.
Ouais, parce qu'il y a eu du travail aussi, qui a été fait. Le fait que ça décomplexe, tu prends l'exemple des coureuses du Tour de France. Chacun sait que j'aime ce sport comme tous les sports, mais celui-ci en particulier.
Comme le basket. Et,
par exemple, Maëva, tu m'as appris à l'aimer. J'en saurais toujours gré. On qu'on soit bien d'accord. Maëva Skiban, moi je trouve que ça la décomplexe le fait qu'il y ait
ça lui enlève de la pression aussi. Tu vois,
Cédrine Kerbaol, elle se révèle. J'ai écouté les commentaires hier sur RMC sur le Tour de France. On parle des coureuses françaises, elles sont nombreuses. C'est donc que la figure de proue a suscité depuis longtemps des vocations, que le travail est fait, le maillage est fait.
Parce qu'il y a eu un travail de
mieux, ça motive tout le monde.
Oui,
moi, ça motive tout le monde. Après, sur le bord de la route, on ne parle que de Pauline Ferrand-Prévot. Hein, du coup,
oui,
on
que sur les réseaux. Mais on ne parlait que de Sexas sur la route.
Mais pourtant, c'est un très bon exemple, Sexas. Si tu as raison de le dire.
Dieu sait s'il y a très bon coureur en France.
C'est que, au-delà du Tour de France, parce que le Tour de France est peut-être la star avant tout, finalement, dans le cyclisme, mais certains se sont mis à regarder des courses, entre guillemets, annexes du cyclisme, qui n'auraient pas regardé le reste du temps, parce que Paul Sexas était là.
Absolument. Moi,
Pascal, tu vas être d'accord avec moi sur le fait que pour faire un bel athlète et un bel exploit sportif, et un beau résultat, un beau spectacle, il faut de la concurrence. Parce que la seule star, oui, même si elle gagne tout le temps, elle attire des choses, elle attire de l'oseille, elle attire les partenaires, mais si elle est toute seule, au final, on se lasse. Et le problème dans ces sports-là, c'est que si la tête de pyramide, la tête de gondole, tu parles de Pauline, tu parles de Maëva, on parle de l'équipe Groupama FDJ Suez, on parle de ces filles qui sont top niveau, mais elles attirent toujours et encore plus. Là, aujourd'hui, Red Bull, la marque Red Bull vient de s'associer à l'équipe de Demi Vollering, cette équipe française. On devrait être ravis, sauf que derrière, pour que ces filles-là aient un rapport de force équivalent ou qu'elles aient des belles victoires parce qu'il y a eu de la concurrence, il faut que ça arrose derrière. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Moi, parce qu'en France, on est en slip. C'est pas ben, dans parce ce domaine-là, France, on n'a pas de fric.
On va vers ce qui brille.
Nous formons au foot, par exemple, comme dans beaucoup de sports en France, on forme de manière performante des champions qui très vite se révèlent. Et bien ensuite, ils vont à la concurrence, ils vont à l'étranger. Pourquoi ? C'est uniquement parce que c'est un problème économique.
Oui, mais j'en viens par là, Pascal. J'en viens par là qu'un mec comme Léon Marchand, je suis sûr qu'autour de lui, il attire un budget de sponsoring qui est quasiment égal à celui de sa fédération. Et là, ça pose un problème.
Mais ça pose un
aujourd'hui,
problème.
Aujourd'hui,
sa fédération,
Fred, on va juste accueillir notre auditeur Kevin qui nous a appelé, qui est avec nous ce matin pour le débat. Salut Kevin.
Salut Flora, salut tout le monde.
Merci d'être avec nous. Salut. Alors, quel est ton avis ? T'es plutôt dans la team oui, dans la team non ce matin ?
J'étais sur la team non et je pensais qu'on serait un petit peu moins nombreux, mais c'était sans compter sur les tris de contradiction de Jérôme et de Fred. Mais pour le coup, je les rejoins totalement dans leur analyse. Et moi, je voulais angler un petit peu sur la question de genre. Et l'exemple que je voulais prendre, c'est Jérôme l'a déjà pris au début de ce débat, c'est l'exemple du ping. Que je connais un petit peu cette fédération, je la découvre puisque mon fils pratique. Et en effet, il y a eu une explosion des licenciés, du nombre de licenciés après 2024. Mais c'est un sport qui, au terme de licenciés, est extrêmement genré. Je crois qu'on doit être de mémoire à 85% de garçons pour seulement 15% de filles. Ouais.
Parce que la figure des Lebrun est masculine, c'est ça que tu veux dire?
Exactement. Et en fait, c'est un petit peu le risque d'avoir une seule tête d'affiche sur un sport. C'est au niveau de la représentation et notamment pour les jeunes filles. Donc pour le coup, je pense que la Fédé tennis de table fait un bon boulot derrière, puisqu'on a des générations de jeunes, et notamment chez les filles là, qui ont des bons résultats là sur des catégories jeunes. On a fait beaucoup de titres et beaucoup de médailles là sur les championnats d'Europe jeunes. Mais voilà, le fait d'avoir une seule tête d'affiche peut induire ce biais de genre, et il faut absolument, là il y a un gros travail à faire dans les fédérations quand on a comme ça, comme Léon Marchand, une tête d'affiche, de faire monter aussi des figures féminines quand c'est une tête d'affiche masculine, parce que je pense que les jeunes filles ont aussi d'identification. Besoin de se représenter et de s'identifier exactement.
Ouais. Mais on a raison, parce que c'est vrai que c'est un problème qu'on n'a pas forcément évoqué là ce matin, mais tu as raison de le mettre sur le tapis, parce que c'est vrai qu'avant tout, on s'identifie forcément sur une personne qui est du même genre que nous, forcément pour se dire, et c'est ce qu'on disait avec Pauline, c'est que ça, Ferrand Prévost, c'est que ça permet aux jeunes filles de se dire, je peux faire du cyclisme.
C'est aussi le boulot des ligues.
Mais ça, c'est
le boulot des ligues.
Mais encore une fois, une tête d'affiche, c'est bien, mais il y a le boulot des ligues à faire. Mais je voudrais juste revenir à la natation artistique, par exemple, avec Virginie Dedieu. C'est assez paradoxal, parce que on avait une tête d'affiche énorme comme elle. C'était une superstar de cette discipline. Et depuis, on rêve d'en avoir une autre. Et donc c'est vrai que c'est complémentaire. En fait, il faut plein de choses.
Bah, y a de l'anticipation aussi.
Et évidemment, il faut des têtes d'affiche, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un travail de fond aussi.
Mais en fait, le meilleur moyen d'avoir de la continuité dans les champions, dans la révélation de ces champions, c'est déjà commencer par en avoir, non ?
Eh oui.
Mais si tu n'en as pas,
Kevin, ça passe par là.
Si tu n'avais pas eu de champion au ping-pong, t'en aurais pas.
Non, moi je voulais juste dire qu'il faut que Jérôme et Fred montent un duo en natation artistique pour attirer les garçons vers ce sport.
Le jour où ils
alors juste le fils de Virginie Dedieu fait de la natation artistique, il s'appelle Maceo et apparemment il est plutôt pas mauvais.
Exactement, il y a des duos mixtes qui existent aujourd'hui et dans les balais, il y a deux hommes maximum qui sont autorisés par balai, donc c'est aussi bien de le préciser. Merci beaucoup Kevin de nous avoir appelé ce matin, d'avoir apporté aussi cette nuance au débat, c'était merci important Kevin. De l'avoir. Merci à toi.
Merci, salut, bonne émission.
Alors, suspense, est-ce que Fred et Jérôme ont réussi à inverser la
évidemment.
Tendance?
Bah oui, ils avaient zéro, donc.
Vous avez gagné 2%, messieurs.
Bah 2%, mais c'est énorme.
C'est énorme.
Oui, mais
énorme.
En fait, tu te rends pas
compte. Bravo, les mecs. Bravo,
on a
les
fait
mecs.
Changer 2% des auditeurs, c'est magnifique.
Ouais, avec c'est un tapis de victoire, tout simplement.
Et 4 millions de personnes qui
présentent en 2027.
Ça reste une victoire du oui. Bravo Pascal. Effectivement, tu as remporté ce ring ce matin. 10h26. Effectivement, ça a toujours plaisir. 10h26 sur RMC. On revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport avec la punchline DGG qui est signée ce matin Bruno Genesio qui veut emmener l'OM en Coupe d'Europe la saison prochaine malgré une intersaison difficile et des moyens un petit peu moindres. Et puis bien sûr, le vestiaire. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
Florent Messi. Il est 10h30, merci d'être avec nous sur RMC. Les grandes gueules du sport vous accompagnent jusqu'à midi avec Fred Weiss, Pascal Duprat et Jérôme Pinault. Et à 10h30, eh bien, place à la punchline. Elle est signée ce matin, Bruno Genesio.
RMC, la punchline GG.
Patience, sérénité ne veut pas dire immobilisme. L'ambition, elle doit être présente. Il y a aujourd'hui un paramètre économique qui rentre en ligne de compte. Mais je crois que par le passé, il y a d'autres clubs français qui ont montré qu'on peut y arriver, à condition de développer d'autres valeurs aussi. Et c'est ce à quoi on va s'atteler. Mais j'ai parlé d'Europe, mais l'Europe, ça va de la première place à la sixième, voire à la septième. On va faire du mieux qu'on peut, mais je crois que Marseille doit être européen. On parle d'ambition, c'est un club où on se doit d'être européen chaque année.
Bruno Genesio, pragmatique mais ambitieux. En même temps, l'entraîneur de l'OM va devoir composer avec un groupe bien différent de la saison dernière, car on le rappelle, l'OM est plus que jamais surveillé sur le plan financier et ne peut pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts. Et pourtant, disputer une Coupe d'Europe reste bien l'objectif principal de l'exigeant club marseillais. D'ailleurs, supporters de l'OM, on vous attend au 32-16. Votre avis, les GG, croyez-vous au projet faire des miracles avec peu de moyens de l'OM? L'OM a-t-il les moyens de ses ambitions? Jérôme, supporter marseillais, j'ai envie de t'entendre.
Ben moi, je pense que cette position et cette situation de l'Olympique de Marseille cette année ne peut lui faire que le plus grand bien. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de dépenser inutilement et n'importe comment, de devoir gérer avec un coach comme Bruno Genesio et un manager sportif et général comme Greg Lorenzi ne peut que être bénéfique à l'Olympique de Marseille. Regardez les exemples passés. On parle du Stade Brestois, on parle de l'Olympique Lyonnais. Stade Brestois a fait un parcours fabuleux en Ligue des Champions. Que je sache, ils n'avaient pas des centaines de millions d'euros à dépenser. Ils avaient recruté intelligemment et créé un groupe très très costaud qui était à l'époque avec une grosse pensée Eric Roy, au management sportif. C'est Greg Lorenzi. Je crois que Bruno Genesio a fait avec le LOSC un parcours exceptionnel avec le LOSC en Ligue des Champions. Le LOSC n'avait pas non plus dépensé n'importe comment. Il y a une gestion avec notre président Olivier Létang qui est parfaitement judicieuse et quoi qu'on en pense d'Olivier, la gestion elle est toujours parfaite dans les clubs dans lesquels il passe, et pourtant les résultats sont là. Donc pourquoi ce ne serait pas possible à l'OM avec ces deux personnes qui ont travaillé et qui ont
contexte,
réussi.
C'est un autre contexte, tu le concèdes quand même.
Justement, il faudrait peut-être que le contexte leur lâche un peu la grappe et les laisse travailler.
T'es en train de demander de la patience à Marseille, là?
Je suis en train de demander un peu de sérénité autour du projet contexte. Sportif. Ouais, j'espère qu'un jour ils vont comprendre qu'ils font plus de mal à leur club que de bien.
Partout ailleurs en France, pour n'importe quel autre club, j'aurais bien entendu répondu oui.
Ouais.
Parce que ce qui compte, c'est ce que Bruno Genesio va réaliser avec son groupe. Et Dieu sait si Bruno a un savoir-faire. Et Dieu sait si on peut avoir confiance en lui. Il incarne parfaitement la qualité des entraîneurs français. Et je l'espère. J'espère qu'il va réussir de manière magistrale et sensible. Néanmoins, tu as fait fi du contexte marseillais. Or, parce que quand on dit que Marseille n'a pas d'argent, c'est aussi oublier très vite que c'est quand même le deuxième budget de tous les clubs français. C'est plus de 200 millions. Donc de l'argent, ils en ont. Le problème, c'est que.
Juste pas le dépenser n'importe comment.
Et voilà. Et la stabilité, il n'y en a jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une impatience. Parce que ce club a une identité forte. Parce que, à Marseille, la pression, comme au stade Vélodrome, elle existe nulle part ailleurs en France. Donc là, ça va être difficile.
Et quand ça tu a eu commences marché par le par passé, vendre, Pascal, quand même.
Mais quand tu commences par vendre tes actifs qui ont été performants, je pense à Greenwood.
Ah oui.
Pardonne-moi de te dire qu'avant même de commencer à recruter, tu dois déjà, vendre pour exister, vendre pour passer tous les écueils de la DNCG et que sais-je encore. Donc ça veut dire que t'appauvris ton effectif, et puis ensuite t'as pas d'argent, il faut que tu fasses des coups. Des coups, tu peux en faire un, tu peux en faire deux, tu peux en faire trois, mais ce sport est extrêmement concurrentiel. Donc comment tu vas pouvoir attirer des joueurs à bas prix, de grande qualité, pour faire en sorte que Marseille...
Mais Pascal, avec l'effectif que tu as déjà, tu peux jouer l'Europe, là, quand même.
Après, on ne sait pas quel va être l'effectif au début de la saison, hein, Jérôme. C'est ça aussi le problème pour Bruno Genesio.
Jouer l'Europe pour Marseille, c'est un moins 10 ans.
Avec quel effectif il va construire cette saison, hein, parce que là, on rappelle que tous les joueurs marseillais sont transférables. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une offre intéressante qui arrive sur la table, il sera vendu, qu'il soit titulaire ou non. Donc, il y a aussi le risque de voir encore beaucoup de joueurs partir. Hein.
Et puis ensuite, il faut comprendre les supporters marseillais qui attendent. Marseille, c'est le club de référence en France, même avant le PSG. Et donc, ils sont, depuis de nombreuses années, sevrés de titres. Et voilà pas qu'aujourd'hui, on leur dit, plus d'argent, voilà. Plus d'argent, et on va d'abord vendre, et puis après, on verra. Attention, hein, c'est un choix judicieux qui a été fait, je le répète, Lorenzi et Bruno, c'est un choix judicieux. Mais Dieu sait que la tâche est ardue.
Ayons
confiance en eux, mais ça va être difficile.
On peut pas leur demander, Fred, peut-être d'être
performant. Après, Européens, ils sont obligés de l'être.
Oui.
C'est le moins 10 ans avec un budget comme celui-ci.
Effectivement, tu as raison de le rappeler aussi, Pascal. Mais c'est vrai que la patience, Fred, c'est clairement pas la qualité numéro 1 des supporters et des suiveurs marseillais, même, j'ai envie de dire.
Non, mais c'est quand même la force de cette équipe aussi. Il faut aussi se rendre compte. Alors, bien sûr que d'un côté, ça peut être négatif, mais de l'autre côté, ça peut être positif. En fait, moi, j'ai répondu.
C'est ce qui fait que ce club est à part.
J'ai répondu que j'y crois, moi. J'y crois tout simplement. Bah oui, c'est assez simple. Moi, on m'a vendu à chaque fois. Ils ont fait un mercato d'enfer. Ils vont être le dauphin du PSG et ça n'a jamais fonctionné. Ou très peu et avec parcimonie. Donc moi, ce que je me dis, c'est que maintenant, on va changer la façon de penser. On a un coach qui est là, qui est plutôt très compétent. Et on a quand même cette base de fans qui vont supporter cette équipe. Si il suffisait d'aligner les millions pour gagner les matchs, ça se saurait. Donc je pense qu'il faut une
même
identité.
Même le PSG a changé de stratégie.
Voilà. Donc
après, ils alignent des millions quand même.
Oui, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Soyons réalistes.
Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Il faut aussi qu'il y ait une alchimie, qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'en vendant ce discours, Genesio, au contraire, essaye d'expliquer aux supporters que ils vont tout faire pour gagner, qu'ils vont mouiller le maillot, qu'ils vont savoir ce que représente Marseille. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent. Alors oui, la patience, par contre, ça va être très compliqué à leur inculquer. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont mal jouer au foot. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien se passer. Ça ne veut pas dire que, justement, ce soutien populaire en disant on est un petit peu en difficulté, on a une masse salariale qui est encadrée, on fait un petit peu moins flamboyant que d'habitude, mais on met les mains dans le cambouis. Ben ça peut, moi je pense que ça peut prendre, et de toute façon ça n'a pas marché en dépensant plein de sous, peut-être que ça peut marcher en dépensant moins.
Et ça n'a pas marché parce que ce fameux contexte marseillais a beaucoup influé l'année dernière avec des personnages qui étaient, on va dire, sanguins cette année, ce recrutement. Moi, je peux pas imaginer, Pascal, tu connais beaucoup mieux ça que moi, je peux pas imaginer qu'on n'ait pas justement échangé avec ce fameux contexte marseillais en se disant, repartons avec des gens qui nous apportent de la sérénité et qui peuvent apporter au club ce qu'on n'a pas apporté jusqu'à présent, c'est-à-dire un énorme professionnalisme, parce que Bruno Genesio est très professionnel et l'un des meilleurs entraîneurs français actuel, et avec un Grégory Lorenzi qui a un réseau qui peut apporter des bons coups. Mais acceptons d'être peut-être moins flamboyants. J'espère que on a parlé de ça avant de faire les choix, parce que le contexte aujourd'hui marseillais, n'oublions pas quand même que l'an dernier, Pascal, tu vas pas me contredire, on a fini avec un entraîneur qui s'appelait Abibay quand même. Donc s'ils se sont satisfaits de ça, on s'imagine que Bruno Genesio, c'est Messi là.
L'année dernière, l'OM s'est fait harakiri, toi.
Mais ils se sont harakiri eux-mêmes.
Un peu plus chaque semaine, toi.
Oui, mais en début de saison, pendant le mercato, tout le monde nous disait c'est un mercato très très bon. Vraiment, on a l'impression.
Je pense que s'ils gardent deux Zerbi, ils font une bien meilleure saison.
On passe sur la passion, sur le contexte marseillais, on y revient toujours.
Bien sûr, mais c'est pas
facile de faire. Ils étaient.
Mais l'année dernière, ils ont recruté
du bon rythme.
Avec deux Zerbi, ils annonçaient des résultats quasiment derrière le PSG ou limite à titiller le PSG. Là, on repart avec un truc où on se dit on n'a pas d'oseille, on a pris Bruno Genesio parce que c'est un très bon coach qui sait faire et qui va savoir mettre en place des choses, mais ne soyons pas trop ambitieux. On va potentiellement, on ne va pas y arriver. Bon, c'est peut-être un peu mieux. Moi, je que dire avec De Zerbi et en virant De Zerbi, en prenant Abibay, en disant on va aller chercher le podium.
Moi,
les mecs qui ont fait ce choix-là, ils sont complètement malades.
Jérôme, mais moi, je pense que le discours peut prendre, justement.
Mais bien sûr, c'est ce que je dis.
Le discours est plus raisonnable et plus raisonné.
Et nous sommes dans un club où la patience n'est pas de mise et où l'ambition est débordante.
Pascal, tu le sais très bien. Oui, mais si ça démarre mal, Bruno Genesio, il peut très vite prendre le feu aussi.
Oui, donc c'est très difficile. Alors bon, avec Bruno, il va garder raison parce qu'il a l'expérience.
Tu penses qu'il a le profil, peut-être, toi, de coacher un club comme l'OM?
Oui, bien sûr, quand on parle du contexte marseillais, justement. En fait, si t'es mieux, c'est un entraîneur, voilà. Donc déjà c'est bien déjà. C'est pas un animateur, c'est un entraîneur. Et ça c'est important, il a la bouteille et surtout il a été formé à l'OL. Donc il va être capable d'aller dénicher les quelques pépites s'il y en a à l'Olympique de Marseille. En toujours est-il qu'il va ratisser large de manière à ne rien oublier, ne rien occulter et tirer la quintessence du groupe qui lui sera proposé. Moi le seul truc c'est que dans un club où la patience n'est pas de rigueur, quoi qu'on en dise, on perd du temps, même s'ils sont pas les deux pieds dans les mêmes chaussures. Mais t'es obligé de vendre avant d'enclencher tes ventes. Et le championnat, ça commence le 21. Hein. Ouais. Et le premier match, ça vaut 3 points. Hein. Les 3 points, il faut les prendre. Si tu les prends pas, t'en as 3 de moins que ceux qui auront gagné.
Surtout que le début de saison est un peu compliqué en plus. Hein,
ouais, Strasbourg, Monaco, PFC, Rennes, PSG dans les 5 premières journées pour Marseille.
Donc c'est pour ça que j'ai répondu non, mais je l'espère sincèrement. Sincèrement, pour le choix que les dirigeants marseillais ont fait, à savoir la raison, remettre les choses à plat.
Pascal, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les supporters marseillais ont bien accueilli l'arrivée de Genesio ou justement ils se sont dit c'est un peu bizarre,
Non, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, je pense que
les supporters l'ont validé.
Oui, ils l'ont validé. Par contre, ils doivent être dépités parce qu'ils se disent, ils attendent un grand attaquant, mais on dit, on va d'abord les vendre. Ils ont vendu, par exemple, Aubameyang 1,5 million. C'est Dieu sait s'ils ont vraiment besoin de pognon, quoi.
Ouais, mais ils ont économisé son salaire qui était important aussi.
Important, oui, mais bon, faudrait économiser tous les salaires parce que là aussi, les joueurs marseillais gagnent très bien leur vie.
Et c'est ça aussi qui fait que certains s'accrochent aussi à leur contrat à Marseille parce qu'évidemment, au-delà des conditions de vie qu'on peut avoir quand on est à Marseille, on est aussi très bien payé. Mais si on parlait de Bruno Genesio, tu évoquais aussi quelque chose d'important, Pascal, et ce sur quoi peut-être d'ailleurs ont misé les dirigeants marseillais en allant chercher Bruno Genesio, c'est la formation, aller puiser dans le vivier marseillais parce que là aussi, il y a des talents et c'est peut-être là-dessus qu'il faut aussi miser pour reconstruire.
Bien sûr. Il est obligé de le faire. Donc en cela, je rejoins mes collègues. C'est-à-dire que là, t'es obligé parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Donc t'es obligé de ne rien négliger. Voilà, tu es pas dans l'opulence en fait. Ok, donc tu es obligé d'être extrêmement clairvoyant et Bruno va l'être parce que il est clairvoyant, mais en plus il est fin. C'est un très 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 bon entraîneur.
La formation, c'est le bon filon selon toi, Jérôme?
quand on est dans cette ville, Pascal, ville dans cette région, moi j'y passe un peu de temps aussi. Ça pue le foot. Des terrains de foot, il y en a partout. Des minots qui performent, des clubs qui forment des minots qui performent.
Avec le survêt de l'OM sur le dos,
Évidemment. Et ça ne changera jamais. Moi, j'ai mis les pieds dans cette ville en 86, j'avais 6 ans la première fois. À chaque fois que j'y reviens, ça ne change pas. C'est toujours la même chose, cette passion. Et le Paris Saint-Germain et la région parisienne arrivent à faire ça. Le club de l'OM attire tous les gamins. Tous les gamins rêvent de jouer à l'OM. Je ne vois pas pourquoi on arrive. Pas à former des gamins, à les garder et à les faire jouer pour le club. Alors évidemment, ces 5-6 dernières années, dès qu'il y a un gamin qui performait et qui était issu de la formation olympique de Marseille, il était vite vendu comme le futur star, parce qu'on pensait d'abord à faire de l'oseille, on le vendait comme une marchandise. Alors ça attire pas, ça fait un peu peur, mais ça, si on arrive à instaurer un discours et qu'on commence à faire jouer les jeunes, évidemment, s'il y a bien une région, un pays, un club en France qui attire des gamins et qui peut attirer tous les gamins de la région...
C'était intéressant de dire pays, parce que c'est presque un pays.
Mais c'est presque ça, Fred. Oui, non, moi, j'y passe beaucoup de temps dans cette ville. Elle pue le foot et l'Olympique de Marseille est au centre. Regarde la géographie de la ville. T'as Notre-Dame de la Garde et t'as le stade Vélodrome. Ça part de là. Tout part de là. Et tous les gamins ont envie de porter ce maillot. Donc évidemment que s'il y a un projet formation, ça ne peut que marcher. Après, il faut être patient avec la formation.
Oui, ça, c'est...
Mais
ça,
je connais
ça,
aussi bien cette ville pour te courte, dire que c'est... La patience, c'est pas la qualité première.
On a l'impression que l'actionnaire n'a pas mis d'argent. Il a mis beaucoup d'argent. Et tous les actionnaires qui sont passés par l'Olympique de Marseille ont mis beaucoup d'argent. Ce club nécessite des recettes extrêmement conséquentes. Ce qui fait que...
Avec la nomination de M. Richard, il faut passer à autre chose. C'est plus les dépenses à tout bas.
Oui, c'est aussi le début d'un
gestionnaire.
C'est début d'un nouveau cycle pour l'OM aussi. 10h44 sur RMC. On revient tout de suite. On va continuer de parler de l'Olympique de Marseille. On vous attend, supporters marseillais, au 32-16 pour venir étayer un petit peu le débat. Il est 10h45. Une courte pause et puis on revient juste après. On parlera aussi évidemment du vestiaire qui arrive dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. De retour dans les grandes gueules du sport sur RMC, il est 10h46. On est toujours avec Fred Weiss, Pascal Duprat et Jérôme Pinault. On continue de parler de l'Olympique de Marseille et de son coach Bruno Genesio qui, malgré l'effectif incertain, ambitionne d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine. On va demander, tiens, à supporter un Marseillais, Mamad, qui est avec nous au 32-16 ce matin, ce qu'il pense de ce projet. Salut Mamad.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu crois en ce projet, ce nouveau projet incarné par Bruno Genesio ?
Bah, franchement, je crois en ce projet parce que c'est un entraîneur qui a toujours réussi partout où il est passé. En tout cas, il n'a pas flopé. Après, c'est clair qu'il est atterri dans un club où il y a une pression populaire qui est, qui est hors du commun par rapport au club où il est passé. Après, j'y crois, mais je pense qu'il y a des joueurs qu'il va falloir... déjà, il perd un joueur comme Greenwood qui mettait... une quinzaine, 20 buts par saison.
Eh oui, c'était l'homme fort de l'OM.
C'était le meilleur joueur de l'OM.
Tu perds Greenwood. Je pense que Balerdi, faut s'en débarrasser. Medina.
Il est sur le départ. Medina, Rouli aussi sont sur le départ.
Donc, c'est surtout par quel joueur il va remplacer, quel effectif il va avoir. Mais je pense que l'OM, être dans les 5 premiers de Ligue 1, je pense qu'il y a possibilité. Puisque Lens,
c'est suffisant dans les 5 premiers pour l'OM ? C'est suffisant cet objectif-là ?
Quand tu vois l'effectif aujourd'hui, t'as
quand
est-ce
on
que
voit
t'as
des
le choix
joueurs, franchement, quand on voit des joueurs qui vont rester à l'OM, ou en tout cas des joueurs de l'OM, là, pour une première saison de Bruno Genesio, je pense qu'à un moment donné, dans les 5 premiers, c'est suffisant. Parce que avec les Benatia et consorts, le président, il a mis énormément d'argent. Pour quel résultat ? Pour quel résultat ? Voilà. Donc ils ont acheté, vendu, acheté, acheté.
C'est la stabilité qui manquait, en fait.
Voilà. Il n'y avait pas de stabilité. Ils ont pris...
dans l'effectif.
C'était compliqué, quoi. Donc l'année dernière, ils auraient dû jouer l'Europe... tous les jours, les 3 premières places. Mais tous les jours. Finalement, échec. Avec, on avait un directeur sportif, Benassia, qui se prenait pour je ne sais qui. Le gars, on a l'impression qu'il avait tout fait dans sa vie. Résultat, il a flopé. Et alors qu'on a un Genesio qui arrive, entraîneur très humble, très humble. Et franchement, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, moi. Voilà, c'est quelqu'un vraiment. Il a entraîné l'OL.
C'est bien d'avoir le son de cloche d'un supporter marseillais, justement, sur Bruno Genesio, parce que nous, on se demandait si justement les supporters étaient conquis par son arrivée. Est-ce que vous attendiez pas un entraîneur peut-être avec plus de caractère, comme pouvait l'être De Zerbi? On a l'impression que vous avez fait un petit peu votre deuil aussi de ce genre d'entraîneur-là.
Ouais, mais ça marche plus, ça, les entraîneurs avec du caractère. Franchement, il n'y a pas que le. On en a eu des entraîneurs avec le caractère. Pour quel résultat? On a eu Habib Bey qui est arrivé, qui travaillait sur les plateaux télé, a donné des leçons à tous les coachs de la terre. On lui a donné entre guillemets une Ferrari qui avait quoi, une Ferrari qui a bossé, et il a pas réussi à gérer. Il a flopé aussi. Donc franchement, Genesio, c'est l'humilité, c'est aussi l'expérience. C'est aussi celui qui a lancé beaucoup de jeunes. Donc
c'est peut-être tout ce qu'il fallait à l'OM, en fait, finalement.
C'est tout ce qu'il fallait à l'OM, avec comme adjoint Pascal Duprat. Et là, ça serait.
Il m'a pas appelé encore. Il a dit qu'il le ferait.
Mais moi aussi, il m'a dit qu'il allait taper. Il va taper.
Non, mais alors, tu sais quoi, c'est intéressant, Mamad, que tu poses cette question. Mais Pascal, ça aurait été un projet qui aurait pu t'intéresser, toi, un club comme l'OM, justement.
Ah ouais, mais à pied. J'habite pas loin. Je suis venu à pied. Mais je l'avais dit l'année dernière.
Ça fait pas peur, je veux dire. Non, mais gratos, ça fait pas peur ce contexte dont on n'arrête pas de parler, non, cette pression peur, populaire, peur, le manque peur. De patience, etc.
Mais c'est. En fait, c'est
challengeant.
Tu sens, à l'OM, c'est challengeant. Tu dois te sentir vivant que d'être le coach de cette
mais c'est un rêve.
Marée humaine.
C'est un rêve absolu.
Ça peut
on
très,
doit vivre des émotions incroyables. Ça peut virer en cauchemar. Oui, mais sur ce très ça bien qu'on aime. Dit,
moi, j'ai apprécié ce que vient de dire Mamad, parce que il dit, on le dit pas assez souvent, que l'actionnaire a mis beaucoup d'argent. Il faut quand même le dire. Donc, ce qui a manqué à l'OM, c'est de la stabilité. Ce que faisait Longoria, 20 changements de joueurs par saison, les entraîneurs pas plus d'une année. Bon, tu peux pas
trop
construire
de renouvellement,
à partir
quoi,
du moment.
Pas trop de renouvellement.
Non, mais ça, c'est pas du renouvellement. C'est un tsunami à chaque intersaison. Donc ça, c'est pas possible. Cela dit. J'ai répondu non, mais Marseille doit être européen. Pour moi, c'est sûr. Bruno va être européen avec l'équipe qu'on lui proposera à Marseille.
C'est ça,
moi, je parle de Ligue des Champions. Marseille doit être toutes les années en Ligue des Champions.
Alors voilà, ça c'est important de le préciser, parce que Bruno Genesio, quand il parle d'Europe, il se mouille pas trop. Il est assez prudent en disant que ça va de la première jusqu'à la sixième, voire septième place. Mais vous, selon vous, que doit viser vraiment l'OM la saison prochaine? Pascal, tu nous as dit les Ligues des Champions.
Ces places-là, si t'es mieux, il peut pas faire autrement que d'être européen, par rapport au standing du club de l'Olympique de Marseille. Et puis ensuite, je l'espère, construire de manière à ce que chaque année, l'OM soit le dauphin du Paris Saint-Germain. Jusqu'au jour où ils le concurrenceront. Parce
que
ça arrivera.
C'est une année de transition pour toi, Pascal, là? C'est une année de transition.
Pas de transition, il faut être européen.
Oui, mais européen, mais ce que je veux dire, c'est que toi, vu que ton ambition, c'est qu'il soit dauphin plus tard, c'est que cette année, il le soit pas
forcément.
Moi,
j'ai confiance au duo, Lorenzi et Bruno Genesio, comme vous. J'ai confiance.
Ce qui est enquiquinant, voilà. Pascal, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde cette année et que les transactions vont se faire un peu plus tard. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il faut vendre pour acheter. Et vendre en année de Coupe du Monde, ça se fait souvent plutôt sur le tard qu'au début du mercato. Mais moi, je suis comme Pascal. Je pense que ce duo-là va réussir à construire un effectif, même s'il n'est pas clinquant. Bruno choisira ses joueurs et il aura un effectif qui sera capable, pour moi, d'atteindre la troisième, la quatrième place de Ligue 1.
Mais l'OM même doit si changer de modèle économique aussi. Mais
exactement.
Et pas surpayer les joueurs. Voilà. Tu comprends, un joueur, il a un ranking. Et son ranking, tu le payes à son ranking. Parce que quand les joueurs de l'OM veulent pas partir, ça signifie beaucoup de choses. Ils veulent pas le partir, pourquoi?
Parce qu'ils veulent pas lâcher la proie pour
l'ombre. Bah, tu comprends? Donc faut acheter au bon prix, il faut payer au bon prix, tout simplement. Et c'est donc changer le modèle économique. L'OM doit s'appeler à cette tâche-là.
C'est encore plus profond.
Devenir un club qui attire. Il faut que les joueurs aient envie de venir jouer à l'Olympique de Marseille, pas pour le salaire et la beauté des calanques, mais pour bel et bien le blason et l'histoire que représente.
Ça c'est sûr. Merci Mamad de nous avoir appelé ce matin. On va accueillir Jacques, autre supporter supporter marseillais qui est avec nous aussi. Jacques, est-ce que tu es optimiste pour cette nouvelle saison, cette nouvelle ère qui s'ouvre à l'OM ?
Optimiste, je sais pas, mais d'abord, je suis content. Bonjour les GG. Hein.
Salut Jacques, merci d'être avec nous.
Je suis très content que Genesio soit venu, on a confiance en lui, mais je voudrais revenir sur l'année dernière à propos de Longoria et des joueurs. On a terminé à un point de, je pense, de la Coupe d'Europe, de la Champions League. Mais c'est pas Longoria qui était responsable, c'est les joueurs. Quand on a vu les matchs qu'ils ont fait, vous vous rendez compte, pour un point, on a pas fait ça. Donc, il a joué au poker, il aurait pu gagner. Et on aurait pu faire la Champions League, sans problème.
Ouais.
Mais, après... mais Longoria, il s'est fait balancer par la personne qu'il avait mise en place. Pourquoi tu le tiens responsable? Il voulait pas partir, Longoria. Il voulait rester à la tête de l'équipe.
Non, je tiens pas Longoria pour responsable. Je tiens les joueurs pour responsables. Ah.
Oui, c'est bien. Mettez-vous à la place des joueurs, tout d'un coup la tête est coupée, le binôme qui semblait indissociable, Benatia et Longoria, se trahit, mais une chatte, il ne retrouverait pas son petit.
Ouais,
les joueurs, ils ont besoin de stabilité aussi.
Mais là, c'est là que je ne suis pas d'accord avec Pascal. Moi,
c'est pas possible.
Arrête, les joueurs s'engouffrent alors. Après, les joueurs s'engouffrent.
C'est insupportable que les joueurs puissent trouver des excuses à chaque fois. À un moment, tu es un athlète de haut niveau, tu es payé pour ça, tu dois trouver des solutions. Toi, si ça se passe mal au-dessus,
c'est un
collectif sur le terrain. Et donc, tu dois te ressouder dans le vestiaire, tu dois trouver des solutions. Moi, je trouve que je suis d'accord avec Jacques. Les joueurs sont responsables en grande partie.
Fred, tu es dans un vestiaire de basket, vous êtes 10, 11 joueurs, tu arrives à parler entre quatre yeux, un vestiaire comme celui de l'OM, t'as les mecs qui ont des salaires de ouf, qui jouent pas, t'as les garçons qui vont foutre le bazar parce que pour déstabiliser celui qui joue, qui vont créer des problèmes où il y en a pas pour déstabiliser un entraîneur parce que si l'entraîneur ne bouge pas, eux vont plus jouer, c'est complètement différent. Et l'année dernière ils se sont mis le feu eux-mêmes de Longoria à Benatia en passant par De Zerbi, et les joueurs, il y en a pas un qui a pris ses responsabilités. Ils se sont rejetés la balle sur les uns sur les autres. Au final, Longoria a été viré. La solution qu'on a trouvée avec un génie au management sportif, c'est d'aller chercher un génie entraîneur.
Et on a
toi,
non ?
Mais moi, l'année dernière, j'ai eu mal au cœur de voir ce qui se passait dans le club que j'aime. C'est plus possible. Genesio, Lorenzi, ça me donne un peu d'espoir.
Ce que ça donne pour cette nouvelle saison avec Bruno Genesio à la tête de l'OM. Merci Jacques de nous avoir appelé dans les GG. Bonne journée à toi. Et puis nous, on revient dans quelques instants. Il est 10h56 sur RMC. On va ouvrir les portes du vestiaire dans quelques instants avec évidemment les souvenirs de nos GG concernant leurs trophées, les trophées qu'ils ont gagnés pendant leur carrière. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils les ont gardés? Ils vont tout nous raconter dans quelques instants.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.